Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, je m'arrêterai sur l'importance de la première année de vie à deux. Bonjour. Soyez des couples heureux. Voilà, c'est pour ça que je suis là, pour vous donner toutes les clés pour être heureux à deux. Et je voudrais quand même, juste avant de me lancer dans le sujet de la première année, vous dire que je suis à votre disposition si vous voulez du coaching, de l'accompagnement sur votre couple. Je vous propose une demi-heure systématiquement offerte. Donc prenez la mesure si vous avez besoin de voir un sujet. Parfois, une demi-heure, c'est déjà satisfaisant. Il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnement derrière. Parfois, ça permet de faire des pas de géant et de se dire, tiens, on voit déjà la direction dans laquelle on peut aller. Peut-être que ça peut être aussi un moyen d'essayer sans aucun risque un accompagnement avant d'envisager un accompagnement de plus longue durée. Prenez-le comme bon vous semble. Mais vous savez que je peux prendre cette demi-heure, vous l'offrir et ça me fera un véritable plaisir de vous accueillir pendant ces 30 minutes pour être avec vous. Je dis 30 minutes, mais en général, ça déborde un petit peu parce que quand c'est intéressant, on déborde un petit chouïa. Mais voilà, c'est 30 minutes, je serai avec vous. Il suffit d'aller appuyer sur le bon bouton en allant regarder sur le blog Couple Heureux pour pouvoir accéder à ces 30 minutes offertes. Pour le sujet du jour, je voudrais m'arrêter sur la première année. Donc, je ne parle pas de la première année pour quand on a 14 ou 15 ans. C'est donc valable pour tous les couples, même ceux qui ont 76 ans et qui se mettent en couple à 76 ou à 80 ans. Ça existe, mesdames et messieurs. Téléphonez à des résidences retraites, vous allez voir qu'il y en a qui se mettent ensemble en couple, même en étant largement avancés en tant que senior. Donc, c'est valable pour tous les âges. Dès que vous décidez de vous mettre en couple, il me paraît important d'entendre que la première année est déterminante. Elle l'est encore plus quand le couple s'installe pour vivre ensemble sous le même toit. Ceci étant, malgré tout, elle reste déterminante. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue la première année et qui fait qu'elle est déterminante? C'est que dans cette première année, il y a plusieurs éléments qui se mettent en place. D'abord, comme on le dit pour les commerciaux, s'il y en a qui sont des commerciaux, des représentants aujourd'hui, vous allez reconnaître cette phrase. Il n'y a pas de deuxième occasion de donner une première impression. Je suis sûr qu'il y en a qui vont terminer ma phrase avant que je termine. Parce qu'elle est connue dans le monde du business, du commerce. Quand on va rencontrer un nouveau client, un nouveau fournisseur, on sait qui, pas forcément client, un prospect, donc quelqu'un qui est susceptible de devenir client, ou un partenaire susceptible de devenir partenaire, avant même qu'il ne signe, soit comme client, soit comme fournisseur, soit comme partenaire, on sait qu'on n'aura pas de deuxième occasion de donner une première impression. La première impression est donc déterminante sur toute l'histoire de la collaboration. Même si parfois on peut se dire après coup, je m'étais trompé, j'avais préjugé, je pensais que tu étais comme ci et comme ça, alors qu'à vrai dire, d'accord. Mais ce sera une... La première impression n'aura pas changé, ça sera toujours un nouvel avis qui viendra compléter la première impression, mais la première impression est immuable. Je rappelle juste que nous avons, les humains, un équipement exceptionnel dans notre cerveau et qui permet d'activer des capteurs en toute inconscience et qui fait qu'à partir du moment où une chose se produit une seule fois, notre cerveau en tire des leçons et des conclusions pour en faire des lois. Par exemple, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le couple, vous frappez à une porte et vous frappez, on va dire, 15 coups, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, 1, 2, 3, 4, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait beaucoup 15 coups, peut-être moins de 15. Et puis quand la personne ouvre, elle vous dit « oui !» vous en tirez la leçon immédiate que c'était beaucoup trop de frapper 15 coups et vous ne serez pas prêt de refrapper 15 coups à une porte avec une expérience. Alors que peut-être, c'était juste cette personne-là qui, à ce moment-là, avait vécu ceci et cela dans sa culture, dans son expérience, faisait que et que quelqu'un d'autre le verrait bien en disant « dis donc, vous avez vraiment envie de venir chez moi, par exemple ». Parce que si vous frappez ces 15 coups et que la personne qui ouvre, dit « Oh là, vous avez vraiment imaginé que ma maison était immense et que j'avais besoin de beaucoup de temps pour venir vous ouvrir, n'est-ce pas ?» Eh bien, vous frapperez peut-être 15 coups à une autre porte. Vous voyez qu'à partir d'un seul événement, on a le naturel d'en faire une règle. Et dans la vie conjugale, c'est malheureusement le cas. Ce qui fait que sans être conscient, on va projeter naturellement sur l'avenir du couple des événements unitaires qui sont survenus dans la première année. Si par exemple, quand vous avez présenté votre conjoint à vos parents, ça s'est super bien passé la première fois, c'est très subjectif ce que je viens de vous dire là. Quand je dis super bien passé, que ça s'est passé exactement, ou peut-être même mieux que ce que vous attendiez dans la capacité d'accueil de vos parents par rapport à votre partenaire, vous allez en tirer la conclusion que, ça y est, vos parents ont adopté votre conjoint. Ce qui signifie que dans les conflits à venir entre vos parents et votre conjoint, vous partirez du bon pied en vous disant que, vu que vos parents aiment, parce que vous êtes arrivé même à cette conclusion-là, votre conjoint, il y a de grandes chances qu'une solution soit trouvée. Par contre, si ça s'est mal passé dès le début, que vous êtes convaincu que vous avez fait naître la croyance que vos parents n'aiment pas votre conjoint à cause d'un événement, un seul événement, vous avez conclu que votre conjoint n'était pas aimé par vos parents, au moindre petit détail, vous aurez l'appréhension en relation avec le fait que vous croyez que vos parents n'aiment pas votre conjoint, votre partenaire. Toute la lecture de votre première année se fera à partir de ce prisme-là. Un événement égale une base de loi. Un événement égale une base de loi. Et on le voit dans notre société aujourd'hui. Il y a un attentat dans une mosquée, eh bien on va mettre, dans toutes les mosquées de France, des services de police et gendarmerie devant les mosquées, quoi. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un événement, on va supposer que peut-être d'autres mosquées seront attaquées. Ce qui est peut-être complètement erroné, d'ailleurs, ça a été sur le plan de la... des systèmes d'attentats, très rarement le cas, quoi. Il y a eu l'hypercachère qui a été attaqué lors d'un attentat. Aucun autre magasin cachère n'a été attaqué en France. Pourtant, il y a eu la police, la gendarmerie autour des hypercachères à Paris pendant des mois et des mois. Vous voyez ? Dans notre couple, on fait pareil. Ce n'est qu'un reflet. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le couple. Mais vous comprenez que dans votre couple, c'est pareil. Si vous faisiez l'amour 3 fois par semaine ou tous les jours pendant 6 mois, vous pensez que ça va être comme ça dans votre couple à venir. Et par conséquent, si la fréquence diminue, vous direz, ça y est, il y a quelque chose qui ne va plus bien dans mon couple, ou bien je commence à être frustré ou à être déçu dans mon couple, etc. Si vous êtes conscient, parce que je suis en train de sonner la cloche de la première année, si vous êtes conscient de l'importance de cette première année, quand vous vous mettez en couple, si vous êtes dans votre première année, là, prenez la mesure de cela pour vivre votre première année en étant le plus vous possible. Et je dis ça à dessein parce que malheureusement, la première année, on se dit, pour continuer à séduire et à convaincre mon conjoint que je suis le bon, que je suis la bonne, eh bien, je vais faire des concessions. Donc, il y a des choses que je ne vais pas oser lui dire. On va attendre que vraiment le ciment ait bien pris, qu'il soit bien sec avant de lui parler de tel aspect, ou bien avant de laisser découvrir telle chose, ou bien avant de faire en sorte qu'il voit que j'ai tel et tel travers. Eh bien, c'est une erreur. Je le dis franco. Parce que quand le ciment est pris, et qu'il est pris avec une grosse bulle d'air, eh bien, le ciment est fragile. Donc, mieux vaut, avant que le ciment ne soit pris, avoir suffisamment d'estime de soi et de confiance en soi, mais aussi d'amour pour l'autre, pour lui dire ce qui, d'après nous, est un inconvénient, d'après nous, est un défaut, d'après nous, peut poser problème dans le couple, et le mettre sur la table le plus tôt possible dans la première année. Quand je dis le plus tôt possible, ce n'est pas le soir où vous allez lui demander la main, mais peut-être un peu plus tard, mais en tout cas que ce soit fait assez rapidement. Parce qu'à partir de là, va se mettre en place ce qu'on appelle les institutions, on va dire, ou peut-être les rituels conjugaux. Les rituels conjugaux seront construits à partir de ces fondements de la première année. Donc, si vous êtes conscient de ça, sachez-le. Parce qu'un rituel conjugal, ça équivaut à une loi du couple. Souvent, je dis aux couples, mais il n'y a pas de loi conjugale qui existe. Oui, il n'y a pas de loi extérieure au couple qui existe. Et qui dit que monsieur doit débarrasser la table, madame doit passer le balai, monsieur la serpillière, madame l'aspirateur, et que monsieur doit s'occuper apprendre aux garçons à bricoler et madame doit apprendre aux filles à repasser. Non, il n'y a pas de loi comme ça. Monsieur peut apprendre à ses garçons à repasser et madame à ses filles à bricoler ou à jardiner. Ça, c'est le couple qui va déterminer cela. Donc, il n'y a pas de loi extérieure au couple. Il n'y a que des lois internes au couple qui prennent leurs racines dans les rituels du couple. Et c'est important d'être conscient de ce qui se construit dans cette première année parce qu'en fait, dans les années qui vont venir, eh bien, cette construction va aller se densifier, s'affermir. Mais l'avantage aussi d'être conscient de cette loi du couple, d'en être conscient dès le départ, c'est que si on a estimé que ces lois conjugales qui sont issues des rituels conjugaux du début de la vie conjugale sont des rituels qui participent au bonheur du couple, eh bien on va pouvoir s'y référer quand on a l'impression que la satisfaction conjugale diminue. Si on avait pris l'habitude de se retrouver tous les soirs après que les enfants soient au lit autour d'une tasse de thé et puis qu'un jour ça part en cacahuète parce qu'on a essayé de faire du squash et que c'est pile à l'heure après le déjeuner et puis que madame fait partie d'un club de ceci et que monsieur va encore et que les soirées autour du thé ensemble après le dîner finissent par s'effriter, on sait que si elles ne sont pas remplacées par un autre rituel, on va dire, de compensation, le couple risque d'être fragilisé sur ce plan-là. Par contre, quand on est conscient de ce qui a participé à la construction du couple dans les débuts, première, deuxième année, et que ça a été des éléments importants pour créer du lien, pour créer de la retrouvaille, pour instaurer de la tendresse, pour nourrir la sexualité, entretenir de la spiritualité, de la communion, pour arroser du bonheur, de la joie, de la complicité, etc., eh bien, on va veiller à ce que ces éléments soient maintenus et même que quand on voit qu'ils diminuent, les faire revenir, les faire renaître. Allez, on va, comme une plante, on va les bouturer, on va veiller à ce que, si on n'a pas mis les choses en place, ça revienne. Et parfois, il suffit d'un changement, d'un retour à un rituel conjugal pour que le couple se sente déjà énormément mieux. Un seul rituel conjugal. Un rituel simple, c'est de vous poser la question... Au niveau de la tendresse, par exemple, comment vous viviez la tendresse au début de votre couple? Je ne suis pas en train de parler des relations sexuelles. Je suis en train de parler de la tendresse. La fréquence de prise dans les bras, la durée pendant laquelle vous preniez les bras. Est-ce que vous teniez par la main quand vous marchiez ensemble? Quand est-ce que vous embrassiez dans la journée sans avoir de perception de relations sexuelles? Un baiser qui n'a pas pour objet de dire bonjour ou au revoir. Un baiser, non pas ritualiste, mais un baiser de sens, offert, gratuit. Si vous retrouvez cette fréquence, les moments, les intensités, les durées, que vous les remettez en place dans un couple qui, pour vous, commence à un petit peu battre de l'aile, vous reverrez naître des choses qui avaient commencé à mourir. Vous verrez des bourgeons, des petites fleurs et de la sève qui va circuler autrement. L'importance de la première année est là. Elle peut vous servir de base pour aller revoir les monuments que vous avez construits, les commémorations dont vous aurez besoin à l'avenir parce que vous les avez mises en place dans votre rituel conjugal de la première année. Et ça va vous servir pour restaurer votre couple quand vous allez voir apparaître des fissures, que vous allez voir que les fruits sont moins présents ou que les feuilles commencent à faner. Vous pouvez remettre des éléments de votre première ou deuxième année en place pour retrouver du bonheur à deux. C'est une clé que je vous encourage à utiliser. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus simple que vous pouvez l'imaginer. Qu'elle a aussi l'avantage de faire qu'on n'avait pas à vous gratter la tête pour vous dire mais comment on pourrait faire en cherchant à inventer quelque chose que vous ne viviez pas. Revenir à des bases, à des sources, à des rituels, à des lois conjugales, à des partages de tâches comme vous les viviez au départ, peut vous permettre de retrouver le bonheur à deux. Et je vous souhaite vraiment, vraiment du bonheur parce que c'est vraiment tellement bon.
Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme « Partager » et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.